Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes le mercredi 23 octobre en direct de 19h à 20h et vous pourrez retrouver cette émission demain de 9h à 10h ainsi que sur Spotify. Nous sommes hyper fiers de pouvoir vous l'annoncer quand vous cherchez La Forêt des Possibles. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons des liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte à la fois les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Mara Moffret, je suis accompagné ce soir en régie par Claire Mailloux.
Bonsoir,
bonsoir Claire. Et par Jeanne Rey.
Salut.
Bonsoir Jeanne. Et en régie, nous avons Félix Stédelin.
Bonsoir à tous.
Bonsoir et surtout Jeanne qui est notre, notre invitée spéciale qui vient aussi visiter la radio. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir.
Et notre invité du soir, c'est Xavier Corval. Bonsoir Xavier.
Bonsoir à la radio, bonsoir à toutes et à tous les auditeurs.
Et ravi de te recevoir, nous allons ce soir parler de ta structure qui est Écosphère et nous allons parler d'anti-gaspi. Et pour celles et ceux qui nous écoutent habituellement, vous connaissez un peu la rengaine, la question du moi au nous et du nous au tout. Et donc on va commencer par présenter un peu ton parcours, ce qui t'a invité, on va dire, dans les prémices à vouloir t'engager avant de parler plus spécifiquement d'Écosphère et de la manière dont ça transforme la société. Et sans plus attendre, je te laisse la parole et je te laisse nous présenter un peu par quoi tu as cheminé pour arriver jusque là où tu es aujourd'hui.
Pour créer l'entreprise sociale Écosphère en 2012. En fait, quand j'ai été étudiant à Sciences Po, la directrice du pavillon de l'Arsenal, un musée d'exposition architecturale à Paris, ne voulait que des Sciences Po pour servir ses cocktails d'inauguration. Alors j'étais un peu chef d'équipe, et à la fin de ces cocktails, c'était encore à l'époque de l'abondance, c'était il y a 20 ans, il y avait des surplus de jambon, de fromage, de pain, à la fermeture, je ne pouvais pas jeter, en fait. C'était impossible pour moi de jeter ces produits. Je pensais à mes grands-parents, à la guerre, à des périodes de rareté. Et donc, à cette époque-là, dans les premiers temps, j'appelais les associations de solidarité, de redistribution alimentaire. Et à 11h minuit, évidemment, personne ne répond. Donc, je prenais ces surplus et j'allais les porter moi-même à des personnes sans-abri sur mon scooter dans Paris. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit quelque chose qui a pris de l'ampleur parce que le samedi soir, j'étais de l'autre côté du buffet, je profitais des soirées parisiennes, etc. Je me disais, il y a plein de surplus. Il faudrait qu'un jour, tu mettes en place une solution pour libérer ceux qui ont la contrainte des surplus et des déchets de cette contrainte. Donc de mettre en place un système, on n'appelait pas encore ça l'économie circulaire à l'époque, qui permette de donner une deuxième vie, une troisième vie, mais simplement et de manière systématique à ces surplus. Et puis après Sciences Po, j'ai fait, entre autres, quelques années de conseil en stratégie web. À une époque, j'étais consultant installé à Barcelone et je me suis réveillé un matin et je me suis dit, mais en fait, ça y est, tu les as, les solutions de simplification, d'optimisation, de systématisation dont tu rêves depuis 15 ans, 10 ans. Tu vas mettre en place, tu vas créer la première plateforme numérique de connexion intelligente entre d'un côté les surplus et les déchets et de l'autre côté les associations de solidarité et les filières de recyclage. C'est comme ça qu'est née Écosphère. Idée juillet 2009, je me souviens très bien, je suis allé monter dans les parcs de Montjuïc pour écrire ce que je voulais faire, le modèle économique, etc. Et puis, j'ai été sollicité pour faire du cabinet ministériel. J'ai dit non, j'en ai déjà fait deux, sauf pour mettre en place ce projet. À l'époque, c'était le pool Borloo-Rosine Bachelot. Et comme ils m'ont dit non, j'ai dit ok, je vais créer l'entreprise. J'ai lu un bouquin de Jacques Attali à l'époque, Une brève histoire de l'avenir, et j'ai retrouvé dans le bouquin de Jacques Attali un concept qui est celui de l'entreprise que je voulais créer, lui appelait ça l'entreprise relationnelle, l'entreprise qui est en relation avec des écosystèmes qui sont très différents les uns des autres et qui crée de la valeur avec l'ensemble de ces écosystèmes, privés, publics, semi-publics. Et je me dis, mais en fait, c'est exactement le modèle d'entreprise que je veux créer, avec un modèle économique qui se crée pour résoudre des problématiques de société. Et en fait, je me suis découvert dans une démarche d'entrepreneur social.
Et alors, est-ce que tu avais déjà cette vocation avant d'avoir cette prise de conscience chez Sciences Po ?
La vocation à créer une entreprise ?
La vocation à créer une entreprise et puis une conscience de se dire on vit dans ce monde d'abondance qui peut-être un jour finira et où nous avons intérêt à pouvoir redistribuer de manière plus juste.
Ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Ça s'est passé d'abord parce que je vis dans un contexte de valeurs et d'éducation qui était porté à la modération, à la sobriété et à la perception, la nécessité d'une bonne répartition des richesses créées. Ce qui s'est passé surtout, c'est que je me suis dit, en fait, tu es en position de faire ce que tu dois faire, donc fais-le. Voilà. À cette époque-là, quand j'ai eu l'idée d'Ecosphère et la volonté de créer une entreprise, moi-même, pour développer un modèle économique au service de missions d'intérêt général, environnemental et solidaire, je me suis dit, je suis capable de le faire, donc je dois le faire.
Tu as levé le doigt en parlant de ressources créées. J'imagine que tu le compares avec de la ressource qu'on viendrait puiser, et donc celle qui est déjà là, et puis celle qui a bénéficié d'un travail humain. C'est ça la distinction que tu fais ?
En fait, oui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un enjeu de préservation des ressources naturelles auxquelles tu fais allusion, et puis ensuite, il y a un enjeu de répartition de la valeur qu'on crée. Alors, je vais peut-être aller un petit peu loin, mais ça fait quand même partie de la philosophie de l'entreprise sociale que j'ai créée. Une entreprise sociale, c'est une entreprise dans laquelle il y a des échelles de salaire, on alloue les bénéfices de l'entreprise à la croissance de ses missions. Et c'est-à-dire qu'il n'y a jamais plus de 50% des bénéfices dans une entreprise commerciale de l'économie sociale et solidaire qui sont alloués sous forme de dividendes aux actionnaires et aux associés. Je suis directement concerné parce que je n'ai pas d'associé, pas d'actionnaire, donc je peux faire ce que je veux. Mais mon choix philosophique, ça a été de me dire la richesse que tu crées, son affectation, son usage, elle doit être équilibrée. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, j'ai la conviction que la plupart des dysfonctionnements qui existent dans le monde dans lequel on vit, sur le plan diplomatique, sociétal, social, environnemental, sont des dysfonctionnements qui sont dus à une concentration des richesses. Mmh. Et donc, le modèle d'entreprise sociale que j'ai voulu créer à travers Ecosphère, ou l'inverse, c'est un modèle qui est conforme à cette conviction qu'il faut absolument que la richesse créée soit mieux répartie qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Et alors Ecosphère, puisque là on en parle depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux nous la pitcher ? J'imagine que tu dois faire ça toute la journée, voire même que tu as passé le stade où les gens te continuent à te demander ce que tu fais.
Alors quand on crée une entreprise et qu'on la dirige depuis 10 ans ou 12 ans, le pitch il évolue. Il évolue avec la maîtrise de ce qu'on fait, avec le fait qu'on innove en continuité, que pourtant il faut une ligne directrice. Ecosphère, c'est des programmes de réduction du gaspillage et des déchets professionnels une fois pour toutes. Voilà. La conviction d'Ecosphère, c'est que nos prestations, l'accompagnement de nos clients publics et privés dans une démarche de coopération, de co-gestion de projet, doit être tel que tout ce qu'on fait, des diagnostics, des plans d'action, des formations professionnelles, tout ça, ça doit avoir lieu une fois pour toutes dans la vie de la structure. On y va une fois pour toutes. Et aujourd'hui, cet enjeu-là, je l'affirme plus que je ne l'affirmais il y a 10 ans, parce que l'enjeu de la préservation des ressources, l'enjeu des économies financières à réaliser en réduisant le gaspillage et les déchets, il est encore plus prégnant aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quand j'ai, 12 ans, quand j'ai créé l'entreprise. Donc c'est ça, c'est 20 à 60% de réduction du gaspillage et des volumes de déchets après avoir collaboré avec l'équipe d'Ecosphère pour réduire le gaspillage et les déchets dans son supermarché, son hypermarché, son agence événementielle, sa maison de traiteur, son espace complexe, un centre commercial, une gare, son restaurant scolaire, de centre hospitalier, d'EHPAD, etc., etc. Mais c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui d'Ecosphère, c'est on y va ensemble une fois pour toutes. Et on a un quatrième métier qui est le métier historique. C'est le métier d'optimiser la deuxième vie, la troisième vie du surplus ou du déchet résiduel.
Alors ce que je te propose, c'est que moi, je vais être un de tes clients types et tu vas me dire quel est ton client type, même si j'imagine qu'il y a plein de clients types. Donc tu vas m'en donner un et après, on va regarder chronologiquement. Ça te va ? Donc déjà, quel client type tu as envie que je sois ? Est-ce que je suis une cantine scolaire ?
Par exemple, okay. Bel enjeu, voilà. Très bel enjeu.
Je suis une cantine
scolaire. En particulier chez nous à Marseille.
Je vais prendre ce rôle-là. Je suis une cantine scolaire. Est-ce que tu peux me dire, avant que tu viennes me proposer tes services, ce que je fais ? Et c'est quoi mes surplus, le gaspille que je fais, de manière générale ?
Alors, première chose à savoir, c'est qu'une cantine scolaire, elle est gérée par une collectivité locale. L'école, elle est dirigée par le personnel de l'éducation nationale, directeur, directrice d'école, le personnel et l'éducation nationale, mais le temps méridien, le temps du midi, en fait, il est géré par la ville, si c'est une école maternelle ou élémentaire, par le département, si c'est un collège, et par la région, si c'est un lycée. Voilà. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le gaspillage alimentaire en restauration collective, et c'est vrai aussi dans d'autres secteurs d'activité, il fait partie du quotidien. Il fait partie du quotidien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas le cœur de métier, ni de l'éducation nationale, ni de la collectivité locale, de réduire le gaspillage pendant le temps méridien. Son objectif principal, c'est de nourrir les enfants qui sont inscrits, et si possible, de les nourrir du mieux qu'il est possible de le faire, avec des personnels qui ne sont pas formés pour réduire le gaspillage alimentaire, dont ce n'est pas l'enjeu, dont ce n'est pas du tout inscrit dans la fiche de poste. Donc déjà, on part d'une situation d'inertie et d'invisibilité du gaspillage alimentaire par rapport aux missions de ce temps méridien et par rapport à des organisations qui fonctionnent comme s'il n'était pas possible de ne pas jeter depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Évidemment, il y a 50 ans, 60 ans, après la guerre, avant les Trente Glorieuses, on n'avait pas la même forme de raisonnement. Donc déjà, ça, c'est le point de départ. Il est hyper intéressant parce que c'est là-dessus qu'on va être dans une démarche à la fois technique et de création d'adhésion. Technique parce que quand on va demander d'intervenir, alors si c'est une collectivité locale, ça va passer par un marché public. Et on va se voir confier cette mission d'accompagner la collectivité locale dans la réduction du gaspillage et des déchets dans les restaurants scolaires.
Est-ce que tu peux nous donner peut-être un ordre de grandeur de déchets et de gaspillage qu'il peut y avoir dans des cantines ?
Oui, de 30 à 50, voire 60% du grammage produit par repas est jeté aujourd'hui. Alors, 30%, c'est la moyenne basse. La moyenne la plus courante, c'est 40% et ça peut monter à 50-60%. Quand on est en restauration de santé, genre EHPAD ou centre hospitalier, on atteint très très facilement, lorsqu'on fait les premiers diagnostics, la main dans les poubelles, du gaspillage et des déchets, 50 à 60% du repas produit livré qui n'est pas consommé. Il y a une foultitude de raisons pour ça.
Ok, donc là, on est sur l'amont. Donc, on a compris que c'est géré par des collectivités publiques qui ont d'autres enjeux prioritaires, à savoir mieux nourrir plutôt que ne pas gaspiller. Il y a un marché public, tu le remportes, enfin, Ecosphère le remporte. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez proposer ? J'ai entendu, moi, quand on a préparé l'émission, qu'il y avait deux plans, un plan technique, un plan humain.
Oui.
Comment ça va se mettre en place ?
Oui. Alors, le plan technique, c'est le diagnostic, avec des protocoles de tri et de pesée qui sont extrêmement précis. Et puis ensuite, des analyses de données. Et on a créé il y a environ un an la première base de données de traitement informatique de toutes les données qu'on récolte sur le plan quantitatif et qualitatif pour pouvoir produire des rapports très détaillés, très précis. Il n'y a pas très longtemps, il y avait le directeur national de la restauration scolaire d'un grand groupe de restauration collective d'origine marseillaise qui me disait en fait j'ai jamais vu de rapport aussi précis sur le gaspillage. Comment est-ce qu'on peut bosser ensemble sur cet enjeu-là ? Hyper intéressant ce type de coopération aussi, on en parlera un peu plus tard. Et donc, diagnostic, première étape. Alors, un diag, c'est jamais un audit. Parce qu'en fait, très souvent, quand on intervient, il y a des acteurs, notamment dans les cuisines de production, qui peuvent se dire gaspillage alimentaire, on va être contrôlé sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. Ce qu'on ne fait pas. Non, en fait, non. Un diagnostic, c'est une photographie à un instant T. Qui doit être exhaustif, sincère et accepté par les équipes parce que c'est la pierre angulaire de la suite, c'est-à-dire le plan d'action. Et c'est indispensable à la fois de visibiliser le gaspillage. Alors pour compléter la question que tu me posais, Marin, tant que les élus n'ont pas pu visibiliser le gaspillage grâce à un diagnostic exhaustif et sincère et professionnel, en fait, ils ne se rendent pas compte de tout ce qui est gaspillé. C'est une réalité vécue à travers des dizaines d'expériences de relations avec des élus. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est gaspillé. Et quand on fait des extrapolations financières sur le coût du gaspillage, là, il y a des déclics qui se créent. Et oui, on va rentrer dans une démarche avec vous pour concilier à la fois la politique sociale de la ville, la politique de nutrition des enfants, la satisfaction des parents et des enfants, avec l'enjeu environnemental de réduire le gaspillage et l'enjeu économique de réaliser des économies financières. Et donc, la technicité est très importante, la précision, le détail, les analyses, les propositions de plan d'action. Et en fait, tout cela ne sera performant que pour autant qu'on soit dans une logique à la fois de coopération avec notamment les personnels, les agents de terrain qui, à un moment ou à un autre, vont appliquer les mesures qu'on aura élaborées, mais qu'on aura aussi co-construites avec eux. C'est-à-dire que on fait des analyses de diag, on provoque une réunion avec des pistes d'orientation d'action qui nous paraissent pertinentes pour l'établissement en question. Et je dis pour l'établissement en question parce que si on veut vraiment accélérer, il faut qu'il y ait un plan d'action spécifique par établissement. On peut avoir sur un même territoire, Marseille ou ailleurs, des taux de gaspillage par école qui sont très différents alors que les écoles sont à 2 km et qu'elles ont les mêmes produits, les mêmes repas, les mêmes menus tous les jours. Et donc il y a des facteurs qui sont très spécifiques à chaque école. Et donc on va réunir les agents en mode projet interservice, donc les agents, les services de la collectivité, les services achats, la fonction diététicienne s'il y en a une, etc. Et en fait, on démarrera la co-construction du plan d'action uniquement s'il y a toutes ces parties prenantes autour de la table. Si elles n'y sont pas, avec quelques experts de France comme Didier Gérard, comme Elisabeth Dorancourt, etc., s'il n'y a pas toutes ces parties prenantes-là, qu'on soit en EHPAD, en CH, en restation scolaire, dans un centre commercial, autour de la table, si on n'est pas en mode projet interservice, on n'y va pas parce qu'on sait que ça ne marchera pas. Il faut que la hiérarchie soit présente. C'est extrêmement important. Et donc là, co-construction du plan d'action, on va construire avec les équipes les sous-actions des actions qu'on a proposées pour les rendre très opérationnelles. Et à la fin, on va voter. On va voter sur ces actions en fonction de deux critères. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'il y a un impact important qui est attendu ? Et donc, c'est comme ça qu'on dessine les plans d'action, en créant un maximum d'adhésion, en accueillant la sensibilité de toutes les personnes qui sont présentes autour de la table sur cet enjeu, qui est un enjeu qui est super complexe, duquel il faut absolument se détacher. En tout cas, c'est la position d'Écosphère de toute démarche de culpabilisation. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs de l'anti-gaspille. Hein. Il y a des acteurs qui sont dans la culpabilisation. Ils portent un message qui est hyper radical. Ce n'est pas notre cas parce qu'on veut créer de l'adhésion pour que, à la fois, ça participe d'une transformation structurelle et personnelle de chaque personne qui prend partie à cet enjeu.
Lorsque vous mettez tous et toutes autour de la table pour décider ce plan d'action et que vous votez donc des solutions concrètes, à quoi elles ressemblent exactement, ces solutions concrètes ? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples ?
Alors, c'est une question qui est très importante parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas visibilisé le gaspillage, on ne peut pas rentrer dans le plan d'action. Et quand on rentre dans le plan d'action, il y a deux catégories d'actions. Il y a les actions de bon sens, mais qui ne sont jamais apparues à la surface de la Terre, hein, pour faire simple. Des actions de bon sens, ça va être par exemple, dans un groupe scolaire, déterminer les effectifs de maternelle et les effectifs de primaire, d'élémentaire. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, en fait, d'interagir auprès d'un groupe de communes qui avait une cuisine de production commune. C'était il n'y a pas très longtemps, hein. Il y a juste un an, et les exemples comme ça, ils sont partout, en fait, où depuis 20 ans, les effectifs qui étaient transmis à la cuisine de production, c'était nombre d'enfants, sans distinction des maternelles, des élémentaires. Donc tous les jours, la cuisine de production, elle produisait le grammage nécessaire à un CM2 pour livrer un tiers de maternelle. Et donc tous les jours, il y avait un carnage en termes de gaspillage pour cette raison-là. Donc, et là, on se dit, on a deux attitudes par rapport à cette mesure de bon sens qui aurait dû surgir dans l'état d'esprit de tout le monde. Soit on crée le malaise, soit on dit, OK, bah, c'est comme ça depuis 20 ans, on a identifié une des causes majeures de gaspillage, et donc maintenant, on va rentrer dans une démarche de progrès, on va réformer ça, et on va faire la révolution, comme le disait le chef de la cuisine de production, sur la prévision des effectifs. Donc ça, c'est une action de bon sens, mais qui, en fait, ne surgit que sur le terrain d'un accompagnement professionnel très respectueux de chacune des fonctions et sans aucun état d'esprit de culpabilisation, juste de progrès.
Et alors, tu me disais quand on préparait l'interview que parfois tu faisais les mêmes programmes, mais que c'était toujours différent parce qu'il y avait la relation humaine qui allait se faire avec les personnes chez qui tu interviens et qu'il y a vraiment cette question de l'adhésion. Vous n'êtes pas là juste pour dire diagnostic, plan d'action, une fois pour toutes, ciao, mais le fait aussi de voir des consciences qui s'éveillent, le fait de mettre de la conscience, ouais, je reprends ce terme, mais en fait je pense que c'est vraiment le terme central. Est-ce que tu peux nous partager comme ça des petites pépites de personnes où tu as vu que du fait de cette prise de conscience, ils deviennent proactifs de ces projets?
Ouais. Alors ce que tu dis là, c'est valable à la fois dans la réunion de construction des plans d'action et dans les formations professionnelles qu'on délivre. Très souvent, en fait, les services des villes, les services centraux des villes qui pilotent, qui ont sous leur responsabilité les agents de terrain qui sont dans les cantines scolaires, ont l'a priori que les agents de terrain ne vont pas être très implicables, pas très impliqués, pas très créatifs sur ces sujets. Pourquoi ils pensent ça ? Parce qu'en fait, ils sont en face à face, de manière très hiérarchique, dans des organigrammes qui sont très figés, sur des fiches de poste qui sont très déterminées, et donc les uns les autres se regardent sur un enjeu qui est nouveau, en pensant que ils sont inefficaces ou contre-productifs. Nous, on intervient avec notre démarche d'experts et d'expertes engagés, avec une technicité et des techniques de création d'adhésions qui sont très importantes, et on fait surgir la créativité et l'implication dans ces réunions de co-construction. C'est une satisfaction pour les agents qui sont là et pour nous qui est énorme. Et le deuxième exemple, c'est en formation professionnelle sur les enjeux de réduction du gaspillage alimentaire et des déchets. Il n'y a pas très longtemps, on était en formation dans une école, ce n'était pas dans notre région, c'était dans une région voisine. Et en fait, il n'y avait que des agents, des cantinières qui étaient là autour de la table. Première journée de formation, et je m'aperçois qu'en fait, il y a une forme de... Le terme de souffrance est exagéré, mais enfin, je vais l'utiliser quand même par rapport à l'absence de reconnaissance de leur métier et une absence de communication entre elles, la cuisine de production et les services de la ville pour faire avancer leur fonction, la satisfaction des enfants, etc. Et donc, lors de la deuxième journée de formation, j'ai insisté auprès de l'élu chargé de l'éducation pour qu'elle vienne à cette deuxième journée de formation. Et j'ai modifié le programme de la formation pour qu'elle participe au même niveau que les cantinières à un atelier de créativité. Et en fait, la venue de l'élu a provoqué un sentiment de bien-être et de reconnaissance auprès de toutes les cantinières qui étaient présentes, qui était absolument incroyable sur le plan personnel et professionnel. C'est la première fois qu'elles étaient toutes réunies avec l'élu et qu'elles travaillaient avec elles sur un enjeu fédérateur hors de leur fiche de poste. Parce que réduire le gaspillage et les déchets, c'est un enjeu qui est hyper fédérateur parce qu'on comprend tous
le
bon sens qu'il y a aller dans ce sens-là. Et quand on trouve les moyens de le mettre en œuvre dans son milieu professionnel, en coopération, sur un projet interservice, là, ça crée de l'implication, de l'adhésion. Les verbatims qu'on a eus de cette formation, c'était gratifiante, valorisante. On n'avait jamais eu ça dans les verbatims d'évaluation des formations.
Ça, tu dis beaucoup une bonne fois pour toutes, une fois pour toutes, ça a l'air d'être un peu la promesse d'Écosphère. Combien de temps ça prend à peu près l'accompagnement en général? Combien de temps en fait ça met à transformer une structure?
C'est la promesse et c'est le mantra d'Écosphère une fois pour toutes aujourd'hui. Il y a tous nos événements, tous nos séminaires qu'on organise spontanément en coopération pour nos clients avec nos clients aujourd'hui, c'est on accélère une fois pour toutes. Alors, c'est combien de temps ça dure un programme? Ça dépend des facteurs de complexité et du nombre d'actions et de la complexité des actions. Tout à l'heure, je répondais à Claire sur une action de bon sens, mais il y a des actions qui sont très complexes à mettre en œuvre, très fines et très complexes. Donc un programme, ça doit s'appuyer sur l'application d'un plan d'action au moins 8 mois. Donc entre le moment où on démarre le diagnostic, où on fait les analyses de diagnostic, les réunions de construction des plans d'action, l'application du plan d'action, le deuxième diagnostic pour mesurer les performances, il va au moins s'étaler 12 à 14 mois. En plus, quand on est en milieu scolaire, il y a les vacances scolaires qui interviennent. Parfois, il y a les grèves, parfois, il y a plein de choses qui perturbent le programme. Mais il faut au moins 8 mois d'application du plan d'action. Quand on est en EHPAD ou en centre hospitalier avec des structures encore plus complexes en termes de métier, de mission, il faut que ça dure un peu plus longtemps. On avait commencé à bosser avec des établissements de santé dans un programme hyper pionnier avant la loi Egalim en octobre 2018. Et tout a été perturbé par le Covid. Donc ça, au lieu de durer 2 ans, ça a duré 4 ans, 4 ans et demi. Mais on ne les a pas lâchés, les directeurs et les directrices d'EHPAD et les équipes, pendant cette période-là. Et après, ils ont été reconnaissants, même s'ils étaient submergés par leurs problématiques de gestion de patients, de personnel et d'épidémie, de ne pas les avoir lâchés.
Je poserai la dernière question avant la pause musicale. On a fait un avant, on a fait un pendant. Et là, Jeanne, tu commençais à introduire la question de l'après. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, comment c'est possible que ça soit devenu vraiment autonomisé? Et donc, comment est-ce que c'est possible que, voilà, en fait, les équipes prennent la main et puis, une bonne fois pour toutes, c'est terminé? Et quels sont les gains aussi, en termes de baisse structurelle de gaspillage?
Alors... La méthode d'Écosphère qui s'applique à chacune de nos prestations, diagnostic, plan d'action, formation professionnelle, c'est accélération, autonomisation. Notre objectif, en passant une fois pour toutes, c'est que les équipes, au terme de notre accompagnement, aient intégré définitivement en termes de process et en termes de culture, tout ce qui va permettre de pérenniser la réduction du gaspillage et des déchets. C'est pour ça qu'on atteint des taux, grâce à cette technique-là, à ces techniques-là et ces principes-là de réduction du gaspillage de 20 à 60% à partir d'un diagnostic initial du gaspillage et la production de déchets. Les gains, ils sont extrêmement importants. Ils sont financiers, C'est le coût de la matière première, mais c'est aussi le coût de l'énergie qui a servi à rien pour produire des repas qui vont être jetés. C'est le coût des ressources humaines qui ont passé du temps à produire pour rien. Donc il y a des économies financières qui sont très importantes. On pourra en reparler parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai combat aussi pour l'écosphère. Et puis, il y a des impacts environnementaux qui sont très importants. Le gaspillage alimentaire, on n'a parlé que d'alimentaire. Hein. L'écosphère n'est pas que sur l'alimentaire, mais là, on a centré sur l'alimentaire, d'autant plus que, je me permets de vous le rappeler, c'était il y a une semaine pile la 12e journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été instituée en 2013 par le premier pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteur du comité de pilotage auprès du ministre de l'époque, Guillaume Garot, qui restait une figure clé de cette politique publique. Et donc, il y a l'enjeu environnemental. Pourquoi ? Parce que si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième responsable de l'émission de gaz à effet de serre, donc du réchauffement climatique, au monde après la Chine, les États-Unis, la Chine. Parce que, en fait, le produit et gaspillé, en fait, il génère du CO2 à chaque étape de sa vie, en fait, à la production, au transport, à la transformation, à la conservation, à la distribution et éventuellement aussi à l'incinération ou à la transformation en méthanisation. À un moment ou à un autre, il y a de l'émission de gaz à effet de serre sur toute cette chaîne-là. Et donc, c'est 8% de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on fait passer comme message dans chaque accompagnement, chaque formation, c'est que, quelle que soit la complexité sur le site de la réduction du gaspillage et des déchets, quel que soit le volume, même s'il est petit, on contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre quand on rentre dans ces démarches de réduction du gaspillage et des déchets, tout en prenant en considération aussi le fait que, ça c'est aussi un parti pris d'Écosphère, le gaspillage zéro et le déchet zéro, ça n'existe pas. Il faut réduire la surproduction au maximum, il faut réduire les déchets organiques au maximum et ensuite passer à l'étape d'après, c'est-à-dire faire en sorte que tout le résiduel, que ce soit des surplus encore destinés à la consommation humaine mais dans un autre circuit d'usage ou de commercialisation, ou que ce soit les déchets, que tout puisse trouver matière à être réutilisé ou recyclé et qu'on ait aucun déchet non recyclable, non recyclé. C'est ça aussi la partie aval de l'enjeu.
Tu as parlé de l'enjeu de réduire et ce que je te propose, c'est qu'on abordera cette question de la réduction des déchets juste après la pause musicale parce que le temps file, Xavier. Pour celles et ceux qui nous prendraient en cours de route, nous sommes en direct dans l'émission de La Forêt des Possibles avec Xavier Corval qui nous présente l'émission Écosphère et aujourd'hui c'est la 111e émission de La Forêt des Possibles comme les 111 villages de la ville de Marseille. Petit clin d'œil. Xavier, tu as décidé de nous faire écouter une musique qui se trouve sur YouTube. Est-ce que tu veux nous présenter ce que tu as décidé de nous faire écouter ?
Oui, il y a une version instrumentalisée par une chef d'orchestre de... une chanson de Modern Talking qui s'appelle Brother Louis, qui est absolument géniale. On la trouve que sur Insta, mais elle est absolument incroyable, cette version-là. Je pense qu'on ne peut pas la passer, donc on passe une version remixée avec une double pêche black and white, parce qu'il y a les Modern Talking qui chantent leur chanson, et elle est couplée avec une intervention d'un chanteur américain black, absolument une voix absolument géniale. Et cette chanson-là, en fait, moi, dès que j'ai un petit coup de barre, je l'écoute, et ça me donne une pêche absolument incroyable. Le son, la musique, le message sont absolument souriants et complètement d'un niveau de vibration que je trouve absolument incroyable et je voudrais partager avec vous.
Et ben merci beaucoup pour ce partage et on espère que vous aurez la pêche en nous écoutant. À tout de suite.
intrigued by the taste, the way you dance, the way you move your waist. We meet face to face in a crowded place. Let me take you home, let's cut the chase. To every man there's two sides, what do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Listen to the words of Brother Luke.
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 et nous sommes toujours en direct dans l'émission de La Forêt des Possibles de 19h à 20h avec Xavier Corval qui nous présente Écosphère, Jeanne, Claire et Félix qui sont en ma présence pour te poser des questions. Et dans la première partie d'émission, Xavier, eh bien, nous avons parlé du passage du moi au nous, c'est-à-dire de ton parcours vers le projet que tu mènes. Et maintenant, la deuxième partie de l'émission, c'est celle du passage du nous vers le tout et la question de savoir en fait comment est-ce que ce projet participe à son échelle à transformer la société. Et de dire qu'en fait, personne n'est capable seul de pouvoir répondre à toutes les questions, mais qu'ensemble, on forme un grand écosystème, puisque tout à l'heure, tu parlais des entreprises relationnelles qui arrivent à pouvoir former des boucles qui répondent à un certain nombre de questions. Et c'est pour ça que nous, on s'est doté de l'image de la forêt, parce que c'est assez parlant pour parler de ces écosystèmes vivants. Et donc, dans la deuxième partie d'émission, nous avons décidé de prendre trois questions, que sont les enjeux de réduction, les enjeux de passage d'échelle et les enjeux de réduction des dépenses publiques. On va avoir un temps un peu serré, surtout qu'on a notre question surprise à la fin. Si personne n'est derrière nous, on pourra pousser pour avoir une heure pile, et sinon, il faudra qu'on arrête un peu plus tôt. Et donc Xavier, je vais te lancer sur le premier thème qui est celui de la réduction. Généralement, quand on... c'est la question de la réduction, de la sobriété, vraiment d'une sorte de décroissance, et pas forcément un enjeu qui est assez facile à cerner pour des institutions qui peuvent être davantage portées sur des enjeux d'optimisation, notamment parce qu'il peut y avoir des enjeux économiques très forts sur des croissances qui perdurent. Et pourtant, Écosphère, toi, et en plus depuis un certain temps, vous êtes positionné sur cette question de la réduction. J'aurais deux questions. Un, qu'est-ce que c'est? Et deux, pourquoi c'est aussi dur de pouvoir le répondre aussi massivement?
Quand j'ai créé la première plateforme numérique de connexion entre les surplus, les déchets d'un côté, puis la solidarité et l'économie circulaire de l'autre, au bout de 6 mois, je me suis aperçu qu'en fait, jamais le numérique n'allait impacter les process et la culture des entreprises, des collectivités sur l'enjeu de la réduction. Et toutes les plateformes, toutes les applis qui sont nées après Écosphère, en fait, elles s'intéressent au stock. Il y a un stock de surplus, qu'est-ce qu'on fait du stock? Il y a un stock de déchets, qu'est-ce qu'on fait du stock de déchets? Et donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que sur la chaîne de l'anti-gaspi qui s'est créée à partir de 2012-2013, bon, il y a les acteurs qui s'occupent des déchets des particuliers, c'est pas nous, c'est pas nos expertises, j'en parle pas. Et sur la partie des acteurs qui affrontent cette question du gaspillage et des déchets, il y a ceux qui sont sur l'enjeu de la valorisation, optimiser la valorisation, la deuxième vie, la troisième vie, éviter au maximum l'enfouissement et l'incinération. Donc il y a des acteurs qui sont positionnés sur ce créneau-là. Et il y a très peu d'acteurs qui sont positionnés sur l'enjeu de la réduction. Nous, on est resté sur les deux en creusant, en approfondissant au maximum l'enjeu de la réduction. Ce qui est très important, c'est de s'intéresser à la cohérence entre les missions affichées par les acteurs, leurs prestations et leur modèle économique, c'est-à-dire la manière dont elles génèrent des revenus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui, tous ceux qui sont sur des logiques de stock, qu'est-ce qu'on fait d'un stock de surplus, de produits invendus, invendables, qu'est-ce qu'on fait d'un stock de déchets, en fait, ils ont des modèles économiques qui sont fondés sur le volume. C'est-à-dire, en fait, plus il y a de surplus, plus on se rémunère en tant qu'acteur de la revalorisation des surplus. Plus il y a de déchets, plus on se rémunère, parce qu'on transporte beaucoup de déchets, sur la revalorisation des déchets. Et donc, il y a des modèles économiques comme ça qui fonctionnent bien depuis très 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 longtemps et qui sont extrêmement difficiles à bouger. Mais même sur la scène de l'anti-gaspillage, il y a des acteurs nouveaux qui sont nés à partir de 2013-2014 qui communiquent sur le fait qu'ils sont sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en particulier. Et en fait, non, ils ne sont pas sur la lutte contre le gaspillage alimentaire puisqu'ils ne font que limiter les effets de la surproduction. Limiter les effets de la surproduction, c'est pas réduire la surproduction, c'est pas réduire le gaspillage, c'est pas rentrer dans la logique de sobriété dont on a parlé dès le début de l'émission. Bon, ça, c'est une manière de décrypter la réalité des enjeux, mais aussi de tout le business qui s'est créé à partir de 2015, en particulier 2014-2015, sur l'anti-gaspi, avec donc des ambiguïtés et puis du marketing qui fonctionne parfois très très bien. Et objectivement, quand on n'est pas sur la scène de l'anti-gaspi comme je le suis depuis 12 ans, tout ça, on ne peut pas le décrypter sans être guidé pour le décrypter. Et donc la réduction, c'est beaucoup plus important. Très souvent, quand on commence à bosser avec certaines collectivités locales, la première réaction qu'elles ont quand on est sur des débats sur le gaspillage alimentaire, c'est on fait du compost. Ben non, en fait, quand on fait du compost, on réduit les effets de la surproduction en faisant en sorte que la matière organique sous forme de déchets soit pas incinérée et qu'elle ait une valeur comme celle du compost. Mais c'est pas réduire le gaspillage que de faire du compost. Un panier anti-gaspi, c'est pas réduire le gaspillage, c'est réduire les effets de la surproduction. Voilà. Donc déjà il y a cette ambiguïté là. Et donc ce qui est très important quand on veut rentrer dans ces logiques d'accélération de la réduction des déchets, c'est la partie réduction et c'est la partie visibilisation du gaspillage. Tant qu'il n'y a pas de visibilisation du gaspillage, en fait, il n'y a pas de déclic, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de conscientisation et il n'y a pas de « ok, maintenant on a constaté ça, qu'est-ce qu'on fait pour y aller ?»
Est-ce que tu peux nous donner en une phrase vraiment ce que c'est que la réduction ?
La réduction, c'est de partir d'un diagnostic initial qui, par exemple, constate que dans la restauration collective, on est à 200 grammes par repas par convive gaspillé, et de se dire, ok, à l'issue du plan d'action qu'on va co-construire ensemble de la phase d'application du plan d'action, on aura réduit le volume de ces déchets lors du deuxième diagnostic de 50%. Voilà. Le gaspillage zéro, le déchet zéro, ça n'existe pas, je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Il y a des facteurs incompressibles de gaspillage, de surproduction et de production de déchets. Mais ce qui est absolument certain, c'est que partout, 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 on peut le réduire d'au moins 50%.
Parce que souvent, avec Claire, on pose la question des 5 R. Alors là, je vais aller récupérer ma fiche pour éviter de me tromper.
Je l'ai en tête. Le premier, c'est refuser, notamment tout ce qui est emballage à usage unique. Enfin, voilà, usage unique tout court, remarque. Refuser, réduire, ce qu'on n'a pas le choix d'accepter, en consommer moins.
Réparer.
Je crois qu'il n'est pas dans les 5 R, celui-ci.
Il y a recycler,
réutiliser,
rendre à la terre. Mais oui, réparer, ça peut être un sixième R,
ouais.
Clairement. C'est un concept qu'on aime bien présenter dès qu'on aborde ces enjeux d'économie circulaire lors de cette deuxième partie d'émission. Et donc, la question de la réduction, comment est-ce qu'on arrive à la faire passer à l'échelle ? Parce que ce que tu nous dis, effectivement, c'est que c'est une sorte aussi de révolution économique. C'est que quand on est sur des logiques de stock, on a intérêt à ce que les stocks puissent continuer à perdurer. Et en fait, ça tourne, quoi. Alors que quand on est dans une logique de réduction, on peut se dire, oh là là, on va créer une contraction. Est-ce que vraiment toute la chaîne a intérêt à ce que ça se passe comme ça ? Est-ce que tu peux nous présenter ta réflexion pour qu'on puisse passer à l'échelle ? Parce que de toute façon, si on ne le choisit pas, on finira par le subir complètement, étant donné qu'on est contraint par les limites planétaires qu'on sent de plus en plus fortes.
Bon, il y a des choses qui ont bougé quand même depuis 2012, où la date de création de l'écosphère, il y a une réglementation qui est beaucoup plus poussée, approfondie. Donc il y a des démarches de mise en conformité avec la réglementation, même si elles arrivent tardivement et post-date d'application légale. Elles se mettent en place. Il y a des modèles économiques qui bougent petit à petit. Il y a 12 ans, en étude de terrain, je me souviens très bien que j'étais allé dans, un hypermarché du nord de la France avec le directeur d'innovation du groupe qui était directeur de l'hypermarché, qui montre une énorme pile de melons. Et je dis, wow, énorme cette pile. Et il me dit, oui, mais pour que je vende 2/3 de melons, il faut que j'ai cette pile-là et je sais que je ne vais pas en vendre 1/3. Mais il était à la fois dans une démarche marketing, mais aussi dans l'adaptation du comportement du consommateur, hein, qui a besoin de cette impression d'abondance. Et donc, il me disait, mais j'ai intégré le prix du tiers que je sais que je ne vais pas vendre dans le prix des 2/3 que je vais vendre. Donc, en fait, ça rendait indolore, finalement, le gaspillage, puisque le coût du gaspillage était intégré dans la marge commerciale de ce qu'elle allait être vendue. C'est en train de bouger petit à petit, tout ça. Les modèles économiques sont un peu en train de bouger, la réglementation y aide. Il y a un mouvement de société aussi. Il y a 20 ans, le marketing de l'appareil photo jetable, le fait qu'il était jetable, qui faisait son pouvoir d'achat et de vente, ça ne pourrait plus fonctionner dans la société aujourd'hui. Donc il y a des choses qui évoluent. Ça évolue quand même extrêmement lentement. On le constate en particulier en restauration collective, parce que je pense que c'est là que sont enfouies en fait les plus grandes inerties sur ces sujets qui peuvent exister, avec toutes les situations absurdes qu'on peut rencontrer, et en même temps des capacités d'éveil et de réveil qui sont extrêmement importantes. Donc comment est-ce qu'on transforme ça en mouvement de société? Nous, notre parti pris, c'est de se dire, ok, on veut y aller avec tous les acteurs une fois pour toutes. Il y a tellement d'acteurs avec lesquels démarrer ces enjeux de transformation, que en fait l'entreprise elle accroît ses programmes de réduction du gaspillage des déchets, mais toujours cette logique qui est particulière pour l'entreprise, qui est d'une fois pour toutes, hein. Si on n'était pas une entreprise de l'économie sociale et solidaire axée transformation, mais un cabinet de conseil, on aurait plutôt vocation à s'installer de manière définitive ou la plus longue possible chez nos clients. Nous, on veut y passer, on veut passer chez tous ceux qui ont vocation à rentrer dans cette démarche une fois pour toutes.
La question de comment on embarque, je la garde pour la question surprise de la fin. Mais tout à l'heure, en préparant l'émission, tu me disais qu'il y avait un enjeu de scalabilité. Et donc, effectivement, que tu t'installes, tu leur proposes, tu les autonomises, et après, une fois pour toutes, ciao.
Oui, c'est particulier comme modèle d'entreprise, hein, mais c'est mon choix, c'est mon parti pris pour accélérer la transformation. C'est autonomiser et être capable de dire à nos clients, nous, on veut que le programme qu'on va mettre en place ensemble, qu'on va co-gérer ensemble, il soit perçu chez vous comme n'ayant lieu qu'une fois pour toutes. C'est ce qui va embarquer vos équipes aussi, dont ce n'est pas le cœur de métier de réduire le gaspillage et les déchets, qui parfois ont subi une fois un diagnostic, une fois une petite mesurette comme ça, qui se disent, bah, en fait, ça n'avance pas, donc à quoi ça sert de repartir sur un autre programme? En fait, nous, quand on arrive, avec notre démarche d'experts et d'experts engagés, la force de conviction qu'on met dans la capacité à bouger ensemble fait que oui, bah, ça démarre, ça fonctionne, ça s'éveille, ça se conscientise, ça coopère et que eh bien, à la fin de notre programme, tout le monde est satisfait. Et nous, on l'est, mes équipes, les chefs de projet d'Écosphère, les graphistes d'Écosphère, les formateurs, les formatrices d'Écosphère, on est satisfait d'avoir accompagné une fois pour toutes tel acteur et on sera en même temps sur d'autres acteurs et on aura d'autres acteurs à rencontrer. Les facteurs de complexité, ils sont extrêmement importants et plus on avance, plus on apprend. Quand on est dans un centre commercial, quand on est dans une gare, quand on est dans un hôpital avec 170 unités de soins, comme certains grands hôpitaux de France, la complexité, elle est énorme. Et donc, on pollinise en fait tous les programmes qu'on peut mettre en place dans tous les secteurs d'activité pour que notre capacité à accompagner techniquement et en termes de création d'adhésion, elle se développe de projet en projet. Alors, je le répète, oui, bah, c'est mon choix, c'est le choix de l'entreprise que de se dire... notre mission d'entreprise, c'est d'accompagner une fois pour toutes tous les acteurs qui peuvent rentrer dans la démarche. Et il y a aussi une satisfaction réelle en termes de transformation personnelle à se dire, ok, on est en co-gestion de projet avec des spécialistes engagés et maintenant, ils nous ont transféré un petit peu de leur savoir-faire, de leur passion et définitivement, c'est intégré dans mon attitude personnelle et professionnelle dans le cadre de mes activités d'entreprise ou de collectivité locale.
Merci beaucoup pour ce partage. On a parlé de réduction, on a parlé de passage à l'échelle. Il y a un gros enjeu également sur des questions sociétales, de société plus exactement, qui te tient à cœur, c'est la réduction des dépenses publiques. Et quand on préparait l'émission, tu me donnais un exemple assez frappant avec des militaires ici à Marseille. Peut-être que tu auras envie d'en reparler. En te disant que... coucou les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de voter le budget pour l'année 2025 avec des coupes drastiques qui vont mettre à mal un certain nombre d'actions sociales. Il y a des questions de bon sens sur la question du gâchis et du surplus et des superflus. Je te laisse la parole pour développer ton point.
Oui, c'est la prolongation de mon combat. C'est aussi une façon dont aujourd'hui je fais de la politique, puisque j'ai fait Sciences Po Affaires Publiques, à une époque j'étais engagé politiquement. Et puis à un moment j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était assez inutile et assez inefficace. Quand on est sur des enjeux de société, les uns et les autres ici, à un moment ou à un autre, on porte à la fois des messages et des solutions, et donc on fait de la politique dans le sens de l'intérêt général, avec des modèles économiques de production de revenus pour y arriver, pour vivre, pour développer, pour innover, etc. Et aujourd'hui, du combat contre le gaspillage alimentaire ou pour la sobriété, pour l'évitement du gaspillage, il y a un prolongement pour moi qui est absolument évident. Pour avoir identifié depuis 10 ans toutes les poches d'économie financière réalisables et réalisées, c'est qu'il faut absolument y aller partout où on peut réduire les dépenses publiques. Et c'est évidemment le cas quand on est dans le secteur public, en restauration collective par exemple. Il faut y aller, mais il faut y aller maintenant. Il ne faut pas attendre 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tergiverser qui va le faire, comment, pourquoi, quel marché on va passer. Il y a des dizaines de millions et des centaines de millions d'économies à réaliser en restauration collective aujourd'hui. Des centaines de millions partout en France. À Marseille, à Neuilly-sur-Seine, dans la plus petite commune qui soit aujourd'hui, partout en France, qu'on soit en gestion directe, en gestion concédée. Donc il faut que les acteurs s'y mettent et que les élus décident à un moment ou à un autre d'y aller volontairement, parce qu'on cherche partout des économies à réaliser. Il y en a qui sont très difficiles à réaliser. Là, il y a des économies qui sont juste évidentes, réalisables et déjà réalisées. Il faut absolument y aller aujourd'hui pour sortir un petit peu de la pression de l'absence de recettes dans notre pays, slash augmentation des impôts, et de sortir de cette pression à la réduction des dépenses publiques sur des dépenses publiques qui sont indispensables, alors que précisément, on peut faire des économies sur des dépenses qui aujourd'hui pourraient être réduites sans modifier le cœur de la mission d'une école, d'un centre hospitalier ou d'un EHPAD. On a parlé aujourd'hui quasiment que du secteur public. Évidemment, il y a aussi des tas d'économies à faire dans le secteur privé, dans l'industrie agroalimentaire, dans les hypermarchés, les supermarchés, et de pouvoir réorienter en fait les économies réalisées vers du qualitatif. L'enjeu, il est là en fait, hein. C'est de sortir de l'équation quantitative et de passer à l'équation qualitative. Partout, c'est le cas, et c'est aussi une des manières de parler de sobriété. En fait, quand on réduit en restauration collective le gaspillage, c'est un outil clé pour améliorer la qualité de l'alimentation. Le confort des patients, le confort des convives, de faire de l'alimentation un soin en établissement de santé, un plaisir dans des maisons de retraite, une qualité nutritionnelle pour les enfants dans les écoles, et aussi une conscientisation.
Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que là, tu nous dis qu'il y a des poches, c'est comme ça qu'on l'entend, c'est-à-dire des endroits où on se dit « Ah, en fait, on va pouvoir éviter de couper dans les dépenses publiques parce qu'il y a des endroits où on perd de l'argent bêtement ». Est-ce que tu peux nous donner un exemple qui puisse être tout à fait frappant à l'écoute?
Alors, j'ai des tas d'exemples, mais je suis aussi, pour des raisons qui sont liées à la qualité des relations qu'on a avec tous nos partenaires et tous nos clients, dans un devoir de confidentialité, donc je ne donnerai pas de nom. Je pourrais dire dans telle ville, tel service, tel ministère, etc., il y a tant de réductions de la dépense publique à espérer parce qu'elle est possible, mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas que nos partenaires qui sont dans d'excellentes relations avec nous se sentent culpabilisés de quoi que ce soit. C'est pas comme ça qu'on fonctionne chez Ecosphère.
Et je le respecte.
Et pour autant, effectivement, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de caserne militaire où en fait la consommation d'eau depuis 15 ans est surélevée parce que il y a des tuyaux qui se sont branchés dessus de la part de camps de gens du voyage parce que la réglementation est telle que l'armée doit se faire installer un compteur par une entreprise privée, que l'entreprise privée lui facture 13 000 euros l'installation du compteur. C'est délirant, en fait. C'est totalement délirant. Et des situations de cette absurdité-là, dans notre pays, il y en a des centaines de milliers, en fait. Et il est temps qu'on se réveille, que le citoyen, le salarié, la salariée, la citoyenne, le directeur, la directrice, l'élu se réveille et se dire « Ok, quand est-ce qu'on y va une fois pour toutes, là aussi, à réduire les dépenses publiques qu'on peut réduire ?»
Et alors, je vais arriver sur ma question de la fin. Tu disais quand est-ce qu'on y va une fois pour toutes, et une des manières d'embarquer, c'est la question des imaginaires. Et d'ailleurs, la Forêt des Possibles est associée à un site qui s'appelle l'Arbre des Imaginaires, qu'on vous invite à regarder sur Internet. Et j'aimerais que tu nous projettes dans un Alors, il y a plein de structures qui le font aussi, on peut les citer. Un futur proche, qui est une structure qui fait ça en l'occurrence. Il y a la fresque des imaginaires, que tu animes régulièrement, Claire. Les 2030 glorieuses. Mais j'aimerais qu'on se projette, allez, en 2040, donc on a 15 ans, dans un monde où on a réduit ce qui pouvait être réduit. Donc, peut-être que je vais te demander de fermer les yeux et de l'imaginer, ce monde réduit. J'aimerais que tu imagines ce que ça te provoque comme sensation, déjà, que de se dire « on a réussi ». Et j'aimerais ensuite que tu fasses un peu attention à ce qui se passe autour de toi. J'aimerais que tu fasses attention aux relations que tu vas avoir avec les autres, parce qu'on est dans un cas de conscience, puisque la réduction est venue avec cette conscientisation qui s'est élevée, et que tu fasses attention à la manière dont ça transforme aussi les relations que tu as avec les autres. À la façon dont ça te donne du goût et du sens dans ce que tu fais au quotidien, où des choses qui pouvaient paraître tout à fait anodines avant prennent plus de sens parce qu'on a pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir. Et j'aimerais que tu nous le décrives. J'aimerais que tu nous décrives ce que c'est, le sentiment que ça, que tu as, et que tu nous donnes envie, en fait, que tu nous embarques dans cette aventure.
Alors... Quand j'ai créé Ecosphère, je l'ai appuyé sur une base de valeurs que j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a pris du temps et je l'ai travaillé notamment à Rome. J'ai eu la chance de pouvoir travailler cette base de valeurs à Rome. Et en fait, la conviction que j'ai acquise, c'est que le rapport à la nature, le respect du rapport à la nature, un produit alimentaire, c'est une ressource naturelle. C'est une ressource naturelle qui... et le fruit aussi du travail de l'homme et de la femme. Quand on ne respecte pas ce produit, à un moment ou à un autre, c'est la relation à l'autre et à soi-même qui se détériore. Donc une société dans laquelle la sobriété a pu se déployer, la sobriété positive a pu se déployer sur le respect de la création, le produit qui est créé par la nature et dont la sublimation est l'œuvre aussi de la création de l'homme et de la femme, le respect de ce produit par l'évitement du gaspillage, par la sobriété, c'est pour moi une condition indispensable à la redécouverte de la qualité des relations humaines, de la relation à soi, à une forme de spiritualité aussi, et de la redécouverte d'une forme d'harmonie et de paix en fait entre les femmes et les hommes, les peuples de ce monde, avec cet enjeu aussi que j'évoquais tout à l'heure de la répartition des richesses. Donc la réduction du gaspillage, c'est, on l'a évoqué très matériellement tout à l'heure quand tu as évoqué l'évitement des dépenses publiques, mais c'est clairement aussi le respect de soi, le respect des autres et la redécouverte d'une société qui soit apaisée, respectueuse, harmonieuse et plus unie.
Du moi au nous et du nous au tout, finalement.
Certainement, Marin.
Je trouve ça très, très beau. À titre personnel, je partage absolument ce que tu as partagé. Peut-être que je peux demander à Jeanne, parce que toi aussi, tu travailles sur la question de gestion de déchets. Alors, on n'est pas sur la question du déchet alimentaire, mais peut-être que j'ai envie de te laisser le mot de la fin pour conclure cette émission.
Je te remercie. Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de déchets alimentaires ce soir, mais je suis très curieuse de découvrir le reste des activités d'Ecosphère. Moi, ce que je retiens surtout de tout ce que tu as exposé et de ce que je rencontre dans le travail, c'est que ce qui est important, c'est d'interrompre le geste, en fait. C'est vraiment ce déchet-là qui est le meilleur déchet, celui qui n'est pas créé. C'est ce qu'on entend souvent. Et je pense qu'il y a un peu cette réflexion autour du geste interrompu et il y a certains gestes qu'on peut interrompre pour justement éviter ce gaspillage.
Claire, est-ce que tu as aussi envie de dire quelque chose? Ou alors on peut rendre l'antenne?
Je vais rendre l'antenne. Non, c'était hyper, hyper intéressant cette question du gaspillage alimentaire. Et j'ai appris beaucoup de choses, dont les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à toutes les étapes du gaspillage alimentaire. C'est quelque chose dont je n'avais pas conscience. Donc merci pour cet apport, Xavier.
Ecosphère s'écrit sans U. E-Q-O-S-P-H-E-R-E. Parce que quand on a créé le nom, on a voulu par ces trois lettres là, EQO, aller vers la connotation d'équilibre, de qualité, d'économie, d'écologie, enfin tout cela en harmonie.
Eh bien, merci beaucoup, Xavier. Xavier Corval, donc de Écosphère sans U, pour celles et ceux qui auraient été intéressés, qui auraient envie de pouvoir mettre en place de telles pratiques dans vos lieux de travail, puisque tu t'adresses auprès de professionnels. Je remercie également l'équipe, donc Claire et Jeanne.
Merci.
Et je remercie en studio la deuxième Jeanne et Félix. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Je ne sais pas si on a invité la semaine prochaine. On en a un dans deux semaines, c'est certain. Ça sera Amine Kessassi. Qui viendra nous parler d'écologie populaire dans les quartiers. Bonne soirée.
Merci. À bientôt.
Et à bientôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Au revoir.